bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les mémoires de Jacques Julliard, une bio-anthologie où l'historien et éditorialiste Amariane revient sur ses engagements, sur la capitulation d'une gauche en bataille et la fin de l'idée progressiste selon lui. Le livre s'appelle L'esprit du peuple, il paraît chez Robert Laffont et Jacques Julliard sera avec nous, notre invité pour la seconde partie de La Grande Table après le journal d'Antoine Mercier. Mais pour commencer, une vie de cinéma, celle de Sylvie Piala, gardienne du temple, productrice des Gardiennes de Xavier Beauvoir en salle aujourd'hui, après Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, César du meilleur film en 2015, après L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy ou encore des films de Guillaume Niclou et de Joachim Lafosse, elle continue à convaincre avec des choix exigeants, tournés toujours vers le public. Ne cherchez plus la femme, elle est ici avec nous sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? Lignonne quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore.
Alors, c'est pas vraiment du Johnny Hallyday pour ouvrir cette émission avec vous, Sylvie Piala. C'est du Iris Bry dans le film Les Gardiennes de Xavier Beauvois en salle aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Prix Goncourt en 1920 pour Naine, l'instituteur Ernest Perrochon, auteur des Gardiennes, publié en 1924. Est-ce qu'il était un écrivain maison pour vous? Comment ce livre est arrivé entre vos mains d'abord avant d'arriver sur la table de chevet du réalisateur Xavier Beauvois qui vient de l'adapter?
Maison, c'est exactement le mot. Disons que je passais toutes mes vacances chez mes grands-parents en Auvergne et que du côté paternel, il y avait une petite étagère avec quelques livres, dont l'œuvre complète de Perrochon. Et voilà, je les ai, oui, dévorés, puisque justement, il y avait peu de livres chez mon grand-père, pas énormément de livres chez mon père, et mon père a dû se dire qu'il fallait qu'il y ait un moment un enfant qui lise. Et c'est tombé sur moi, j'étais l'aînée, donc voilà, donc je lisais beaucoup. Et ces livres m'ont bercé, et sont restés très vivaces, alors que cet écrivain, lui, est resté méconnu, presque méprisé, comme le sont souvent les écrivains paysans ou les écrivains voilà régionaux.
Et ce terme, les gardiennes, existait à l'époque ou c'est lui qui l'a inventé? C'est un né de l'esprit du romancier ou c'est un mot qui était accepté, consacré à ce moment-là?
Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment lui qui l'a inventé. Enfin, qui l'a inventé, en tous les cas, qui a essayé d'en faire son titre. C'est quelqu'un qui a été très, très marqué par cette guerre, qui a été blessé et qui s'en est d'une certaine façon jamais remis. Il était écrivain évidemment avant d'écrire Les Gardiennes puisqu'il avait eu ce Goncourt en 1920, mais il a vraiment arrêté son métier d'instituteur justement après le Goncourt et je pense que toute sa vie il n'a eu de cesse de parler de ce monde, de ces gens, de cette guerre et finalement c'est 40 qui lui sera fatal.
Soldat de la Première Guerre, Ernest Perrochon, démobilisé, il va connaître le front et la vie civile. Ce livre, Les Gardiennes, nous raconte un monde oublié, celui des femmes restées au champ pendant que les hommes font la guerre, des paysannes qui tiennent littéralement la baraque, abattent un dur labeur pour assurer la survie des leurs et puis préparer le retour, même si cette parenthèse ouverte par la guerre, on ne sait jamais quand elle se terminera, peut-être un peu à travers les lettres aussi que les femmes reçoivent, tandis qu'elles sont à la ferme, des hommes partis au front, le temps de la guerre revient insidieusement dans leur vie, comme il revient d'ailleurs dans le film. On va écouter un extrait des Gardiennes de Xavier Beauvois à travers une lecture d'une lettre que l'une des femmes restées à la maison reçoit d'un des hommes partis au front.
Cher Georges, puisque vous m'avez permis de vous écrire, j'ose vous donner quelques nouvelles du Paradis. Voici mon premier hiver avec votre famille. Nous avons appris pour Verdun. Cela a réchauffé nos cœurs. Le temps de la victoire approche. Tout se passe bien avec votre mère. Elle me promet qu'après la guerre, je resterai au Paradis. Si cela peut vous consoler, sachez qu'au loin, une personne pense à vous chaque jour. Il y a à présent une personne sur la terre qui pense à moi, qui me dit ses peines et qui m'invite à les partager. Je prie pour vous, Francine.
C'est un film de femmes, avec des femmes, Sylvie Piala, Hortense, la mère jouée par Nathalie Baye, la fille jouée par Laura Smet, Francine qui est incarnée par Iris Bry et qui est l'orpheline, une travailleuse saisonnière qui va rejoindre la ferme et prêter ses bras tandis que les hommes sont au combat. C'est un film dans la guerre qui ne montre pas la guerre. La guerre reste hors champ, un temps suspendu, on l'évoquait, peuplé de fantômes, habité par ses silences. Pas facile de rendre compte de tout ça au cinéma, c'était un projet presque impossible.
Oui, en même temps, cette guerre qui est vraiment dans nos fondations encore, hein, c'est un moment qui, oui, je pense qui est en nous, et dont on a hérité d'une certaine façon, à la fois la dernière victoire et en même temps la dernière fois où l'endurance a été possible. Et c'est très difficile d'envisager de faire un film sur la guerre de 14, puisque évidemment c'est une guerre qui est une guerre de tranchées, enfin qui demande énormément de moyens si on veut montrer le front. Et je trouvais que montrer l'arrière et s'en tenir là, avec le retour ou pas de ceux qui étaient au front, a fait que c'était possible d'envisager de tourner un film, enfin que c'était envisageable. Parce que c'était possible au niveau des moyens financiers pour le mettre en œuvre. Et en même temps, on le sait, les femmes, que ce soit en ville ou à la campagne, même si la France était évidemment largement majoritairement agricole, ont vraiment tenu tout le pays et ont fait que rien ne s'arrête. Et ben pour moi, c'est à la fois une ode à ces femmes, bien sûr, aux femmes en général, et à ce sens incroyable de la survie, qui évidemment se voit bien mieux pendant une guerre, mais qui pour moi est notre quotidien.
C'est un film qui n'est pas spectaculaire au sens littéral du terme. C'est un film sur le quotidien de ces femmes qui prend le temps. Les Gardiennes, un roman écrit par un homme, un livre dont les protagonistes sont des femmes, un film réalisé par un homme qui met en scène des femmes, puisque vous transmettez ensuite ce roman, Sylvie Piala, à Xavier Beauvois. Pourquoi vous avez pensé à lui, un réalisateur, et pas à une réalisatrice pour le réaliser, ce film ?
Je me pose rarement les questions comme ça, alors surtout pas un film de femmes avec des femmes, mais comment dire, je pense que Xavier Beauvois fait partie de ces rares cinéastes. D'ailleurs, Perrochon s'intéresse à ces gens avec qui il vit et les appelait les sans-pains, ou les manche-pains, je ne sais plus, j'avoue que ce matin je suis un petit peu troublée. Et que Xavier vient d'un milieu dont sont issus très peu de metteurs en scène. Et voilà, son grand-père était agriculteur, ses parents après voilà sont socialement montés, mais il les a vus, il les ressent et il les intéresse. Ça, on peut le voir dans tous ses films. Et il y avait besoin que ce soit quelqu'un qui soit immédiatement touché, immédiatement inspiré aussi. Mais ce livre est resté très très longtemps sans qu'il le lise chez lui. Après, c'est un concours de circonstances, mais c'est vrai que je me permets très très rarement d'envoyer quelque chose à un metteur en scène que j'admire, parce que j'estime que justement ce tandem producteur-réalisateur est quelque chose d'assez sacré pour moi. Mais voilà, donc ça avait été envoyé, puis finalement c'est une rencontre beaucoup plus tard entre nous qui fait qu'il a dit oui.
Il vit aujourd'hui d'ailleurs aussi en Normandie, donc c'est un réalisateur des champs, peut-être avant d'être un réalisateur des villes, en tout cas des grands espaces, de l'extérieur. Il raconte souvent qu'il déteste ou qu'il détesterait tourner en studio. C'est ce qu'on voit dans la plupart de ses films, ce tournage en extérieur, cette manière qu'il a d'habiter un lieu, de se laisser inspirer par la lumière, par les saisons. Ça, c'est du Xavier Beauvois.
Oui, c'était une leçon de doucher. Il me dira, le jour où tu auras réalisé le plus beau plan de l'histoire du cinéma et que tu le mettras à la poubelle parce qu'il ne sert pas du tout ton film, là, tu deviendras un cinéaste. Et le scénario, c'est pareil. Moi, mon credo, c'est ce que disait François Truffaut, quoi. Le tournage, c'est la critique du scénario. Et le montage, c'est la critique du tournage. Ouais. Donc, pour moi, le scénario n'est pas du tout une œuvre d'art, c'est un outil de travail. Et je suis parce que la météo, mon humeur, les envies de mes acteurs, leur humeur aussi, voilà. Et puis on n'a pas le cerveau dans le même état 6 mois avant que sur le moment. Sur le moment, on est hyper concentré. Moi, j'écoute franchement mon instinct, et des fois on se rend compte que une chose qui était magnifique 6 mois avant, c'est complètement nul sur place. Donc je déchire.
Xavier Beauvois dans l'émission de France Inter, on aura tout vu, Sylvie Piala, le tournage en extérieur donc, mais avec un sacré réalisateur quand même, pour une productrice comme vous, c'est pas un enfer de travailler avec un réalisateur qui travaille lui à l'humeur du jour, qui peut changer ses plans d'un jour à l'autre en fonction de la météo, de son humeur, de ce qu'il ressent, de son instinct comme il dit.
Mais on va dire que pour ça j'étais quand même à bonne école, donc non, moi pour moi, c'est évidemment pas du tout de l'ordre du caprice. Il y a plusieurs manières de faire. Hein. Il y en a pas une bonne. Moi, c'est vrai que avec Piala, j'ai vécu des choses comme ça. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'improvisation non plus. Faut pas mélanger. C'est vraiment, oui, c'est ça, l'inspiration. Attendre le moment où il va se passer quelque chose dans quelque chose qui est plus ou moins prévu, mais laisser la place à l'inspiration, je dirais, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le scénario est un tremplin vers la vraie aventure du cinéma, qui est le tournage. Et ça, bon, Xavier, c'est vrai que c'est un tenant de cela, mais pour un producteur, enfin, c'est pas... Moi, je trouve ça assez joyeux. Du coup, là, vous n'avez pas l'impression que vous allez recevoir des images que vous avez... plus ou moins déjà imaginé en lisant un script. Vous savez que vous serez surprise.
Ça, c'est la productrice qui parle, mais la scénariste, qu'est-ce qu'elle en dit? Femme et scénariste des films de Maurice Piala depuis 85, Police, Sous le soleil de Satan, Le Garçu, vous ne sacralisez pas, vous, comme scénariste, le scénario?
Ben, pas du tout. D'abord, honnêtement, moi, je m'appelle pas scénariste. À l'arrivée, il y a votre nom sous le mot scénario. Mais avec Maurice, c'est encore autre chose, mais que je retrouve avec Xavier aussi. C'est-à-dire des gens qui ne supportent pas d'écrire parce que, à mon avis, c'est un vrai rapport avec l'école et un certain échec scolaire. C'est-à-dire que Maurice, ça lui rappelait inévitablement l'école et la position, l'écriture, la solitude, peut-être, je ne sais pas. Donc il fallait écrire, voilà. Alors c'était toujours nul, en plus, les commentaires étaient toujours dramatiques, mais en même temps, c'est ce qui permettait à la fin d'avoir quand même un script, et puis de partir tourner. Non, et Frédéric Moreau, qui a coécrit avec Xavier le film, voilà, c'est quelqu'un avec qui moi j'ai souvent travaillé, et qui partage totalement cela, c'est-à-dire que elle est là, elle écrit, bien sûr qu'elle a un point de vue, bien sûr qu'il y a des scènes qu'elle aimerait voir et qui parfois elle ne verra jamais, mais non, sacraliser c'est impossible. C'est comme je dis toujours, le scénario, si le scénario est sacralisé, faut ouvrir une maison d'édition et publier des livres.
Donc le scénario, c'est un ticket d'entrée vers le film, c'est un ticket pour la liberté du réalisateur.
Pour moi, oui, et je pense, et ça même Piala en était convaincu, meilleur est le scénario, plus la liberté est grande. Parce que même si on s'en éloigne, même si on l'envoie bouler, il y a ce cadre finalement qui fait que on pourra, au gré de l'inspiration, être quand même dans quelque chose où on se dira pas à un moment c'est formidable, il y a des grandes scènes, mais il manque ça, ça ou ça. Parce que on retombe toujours sur ses pattes. Mais oui, c'est ça pour moi. Meilleur est le scénario, plus la liberté est grande.
Auvergnate, comme Maurice Piala, Les Gardiennes, c'est une chronique rurale, un peu dans la lignée de ce qu'aurait pu faire Piala. Il y a, pour vous, du Maurice Piala dans Xavier Beauvois, où ils auraient tourné ils l'auraient pas du tout tourné de la même manière. Voire, il aurait peut-être même pas eu envie de le faire, ce film.
Non, moi, je pense que Maurice, qui d'ailleurs connaissait Perrochon en pensant qu'évidemment je ne le connaissais pas, mais malheureusement, là, pour le coup, il était tombé sur un os. Mais non, Maurice aimait beaucoup les livres de Perrochon. Maurice avait eu envie de tourner un film qui s'appelait Maria, qui est un écrivain aussi, entre guillemets, paysan, qui s'appelle Lucien Gachon. C'est un projet qu'on a vraiment essayé de faire une ou deux fois, finalement, qu'on a abandonné, qui est à la fois proche et pas du tout proche des Gardiennes. Mais... oui, bien sûr, Maurice, c'est un sujet qu'il aurait pu tourner, ça c'est évident. Maintenant, Maurice a fait La Maison des Bois aussi, et c'est vrai que beaucoup de gens qui ont dit à Xavier, il faudrait que tu vois La Maison des Bois, il faudrait que tu vois La Maison des Bois, et heureusement, il ne l'a pas vu, parce que je pense que c'est pas la peine, au moment de se lancer dans cette aventure, de voir les films des autres, mais il y a des choses très proches entre Maurice Piala et Xavier Beauvois, mais qui ne sont pas pour moi de l'ordre de la cinématographie. C'est vraiment, donc évidemment on retrouve des choses, mais c'est vraiment de l'ordre de un trait de caractère qui sont tous les deux des écorchés vifs, qui ont fait des êtres très particuliers. Et puis cet intérêt aux petites gens, voilà, ce monde qui savent traduire, qui savent écouter et qu'ils ont surtout regardé.
Xavier Beauvois, entouré de femmes pour les gardiennes, hein, ces actrices, on le disait, Nathalie Baye, Laura Smet et Iris Brie, une co-scénariste, Frédéric Moreau, que vous avez cité, une cinquième collaboration avec sa chef opératrice, Caroline Champetier, sa monteuse, Marie-Julie Maille, qui joue aussi dans le film. Elle est, alors comment dit-on, la charbonneuse.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire, moi j'avoue que j'ai vraiment découvert, je ne savais pas du tout que le charbon de bois se fabriquait de cette façon, et c'est ça, oui, on dit une charbonneuse, je crois, ou une charbonnière, je ne sais plus. Mais je suis contente que vous en parliez, parce que je la trouve exceptionnelle dans ce film. C'est vraiment la bonté incarnée à l'écran, et on a l'impression que la petite va enfin être dans un endroit où elle sera pas si mal, malgré tout ce qui lui est arrivé. Et puis, c'est aussi le moment où on est rattrapé par cette guerre, où inlassablement les morts s'accumulent. Et Marie-Julie, qui est à la fois donc la femme du metteur en scène, la monteuse et l'actrice du film, chapeau.
Parce que cette orpheline qui a été accueillie par cette famille de fermiers, cultivateurs, va évoluer à un moment dans ce cercle familial. Elle pense être adoptée et puis elle va être rejetée par cette famille assez durement. Elle aurait eu des comportements suspects. On craint quand même pour la réputation. Tout se sait dans les petits villages. Et puis on pense déjà à l'après-guerre, à ce qui se dira, au on-dit. Elle va donc être chassée, extraite.
Tu l'aplatis bien, faut pas que ça soit bombé, hein. T'enlèveras l'excès. Si t'as froid la nuit, tu demanderas un édredon de plus, ça s'allonge.
Merci, pour l'instant ça va.
Même quand la guerre sera finie, on te gardera, ma fille.
Promesse non tenue, Sylvie Piala. Iris Brie, pour vous, c'est vraiment la révélation de ce film?
Ah oui, oui, tout à fait. C'est la révélation du film, c'est une révélation dans le cinéma français. C'est toujours très joyeux d'assister à une naissance. Et Xavier avait évidemment très envie de découvrir quelqu'un. Parce que quand on a un rôle comme ça d'un personnage qui a 20 ans, c'est possible de prendre quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Et puis, il y a eu cette rencontre incroyable avec Iris, qui donc, non seulement a travaillé, était à la maîtrise de Radio France, c'est pour ça qu'elle a cette voix, enfin, c'est pas pour ça qu'elle l'a, mais en tous les cas, voilà, c'est elle qui chante dans le film. Mais elle travaillait dans une librairie à Montreuil, et à sa pause déjeuner, elle est tombée sur notre casting director qui passait par là, et qui, voilà, a transformé notre vie et a sans doute transformé la sienne.
C'est ce qu'on appelle un casting de rue. Ils les filment merveilleusement, les femmes, Xavier Beauvois. On a presque envie de dire, avec une luminosité incroyable, il y a tous ces plans sur les visages des actrices. Mmh. On sent que quelque part, à travers la caméra, il y a une gourmandise aussi à filmer les femmes.
Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Il y a la gourmandise de Xavier, il y a le talent de Caroline Champetier. Il y avait une grâce aussi... Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, il ne tournera jamais en studio, il déteste ça. Et en même temps, ce luxe du studio, on l'a recréé grâce à cette ferme. Je dirais que la découverte du décor, qui a été très longue, a apporté énormément au film. Elle lui a donné un cadre qui faisait que, voilà, cette lumière dans le Limousin aussi, bon, bien sûr que il y a de la lumière partout, mais il y avait quelque chose qu'on sentait tous les matins, tous les soirs, au lever et au coucher du soleil, à l'intérieur de ces corps de ferme. Et c'est vrai que ces femmes attrapent la lumière, la prennent, nous la rendent, et que, évidemment, dans l'œilleton, c'était tellement tentant.
Et on voit l'importance de l'histoire de l'art, aussi de la peinture dans son cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vécu comme productrice, Sylvie Piala, une double expérience de ces chroniques rurales. C'est qu'au même moment se tournait un autre film, Le Semeur et les gardiennes, tourné en même temps, qui vous fait circuler, passer du Limousin aux Cévennes, à peu près au même moment. Du coup, on se dit que ce Xavier Beauvois, que vous avez suivi sur cette aventure-là, et c'était pas la première, il est loin du personnage qu'il pouvait incarner comme comédien. comédien, cette fois dans le film de Claire Denis, sorti cette année, Un beau soleil intérieur, où il dit à Juliette Binoche, sa partenaire, « Je t'admire, tu m'enchantes, mais j'ai une femme extraordinaire dans la vie. » Il est loin de ce banquier un peu cuistre, ce sale type, comme elle dit, hein, qu'il joue à l'écran dans la vie.
Bah, il se défoule bien, c'est ça.
Il se défoule.
Et en plus, je crois que dans le film de Cédric Anger qu'il a tourné cet été, il fait un producteur de porno. Donc effectivement, je pense que voilà, il donne tout ailleurs. Et puis pour pouvoir se concentrer sur ses gardiennes, sans doute. Non, oui, c'est une chance, je pense, pour un metteur en scène de pouvoir jouer dans les films des autres. Pour beaucoup de choses, parce que à la fois, comme il le dit lui-même. On est ailleurs et en même temps on est dedans, et ça donne confiance, ça ouvre des horizons, et puis on devient par rapport à ces comédiens, je pense, plus compréhensif quand on passe de l'autre côté. C'est pas du tout évident. Moi, je sais que Piala, quand il a joué dans Nos Amours et quand il a joué après dans Satan, pareil, c'était quand même une grosse difficulté. Ça calme sur les demandes après.
France Culture avec la productrice Sylvie Piala, icône des jeunes et des moins jeunes. On a appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday, qui était aussi un personnage de cinéma, souvent appelé à jouer son propre rôle, comme dans L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, son premier film en 72, ou Rock'n'Roll de Guillaume Canet, ça a été sorti cette année, où il a aussi retrouvé Lelouch avec Chacun sa vie. Entre-temps, il avait tourné avec des grands réalisateurs, entre rôles et apparitions, pour Costa Gavras avec Conseil de famille en 85, pour Patrice Lecomte avec L'Homme du train en 2002, et surtout Jean-Luc Godard avec Détective en 84, où il incarne Jim Fox Warner, un organisateur de combat de boxe.
Je voulais courir le monde. Et quand je suis parti, c'était à Dijon, un soir en hiver. Le dernier train pour Paris. Il est arrivé de Vienne ou de Trieste à cette époque.
Istanbul.
Ouais. Vous vous souvenez, avant le départ, il y avait toujours un mec qui longeait les wagons et qui tapait.
Ouais. Il tapait sur les essieux. On n'a jamais su exactement pourquoi.
Non. Il y en avait un autre aussi, qui allait et qui venait tout le long du train. Et qui vendait de quoi manger. Il criait « Aïe glacé, aïe glacé !» Oh, j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il disait « chocolat glacé ».
En hiver, hein?
Ouais. Et ma mère est venue me donner ce livre.
Qu'est-ce qu'elle fout? Je vais la chercher, merde.
Et on a le temps.
Faut pas se foutre de moi, hein?
Non.
Voilà, extrait de ce film de Godard, sorti en 85. Et il est crédité quand même dans ce film comme star, aux côtés de Nathalie Baye et de Claude Brasseur. C'était important de voir Johnny dans un Jean-Luc Godard. Ça paraît assez décalé. Il a pas tourné avec Maurice Piala, Johnny Hallyday?
Non, mais c'était un projet. Et il est venu... Déjeuner à la maison avec Nathalie Baye, et je me souviens, on venait juste de s'installer avec Maurice, et c'était un peu la misère, et j'avais un but à gaz, et j'avais pas encore de gazinière, et je m'étais dit, merde, Johnny, quand même, qui vient déjeuner, donc j'avais fait une potée auvergnate, en me disant, voilà, un feu, plus ça cuit, mieux ça va, donc pas de panique s'il est en retard. Il est arrivé très en retard, et c'était un être extraordinaire, je pense que tout le monde va le dire aujourd'hui, mais moi, pour l'avoir rencontré à ce moment-là, mais d'une douceur, d'une gentillesse, d'une simplicité, voilà. Non, mais ça aurait pu se faire. Maurice lui avait proposé un film qui s'appelait « Un homme se penche sur son passé ». Et Maurice lui disait « Oui, mais il y a quand même des scènes difficiles. À un moment, il mange le cœur brûlant d'une bête qu'il a tuée. Ça se passait dans le Grand Nord au Canada. Et Johnny dit « Ah, mais moi, ça n'a pas de problème. Moi, je mangerai le cœur. Ça ne me gêne pas du tout. »
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Invitée de La Grande Table aujourd'hui, la productrice Sylvie Piala, Les Gardiennes en lice pour le prix Louis Deluc, qui sera attribué le 15, le prix de la critique présidé par Gilles Jacob. Quand on voit la liste des films sélectionnés, on se dit que le cinéma français se porte quand même pas si mal, non, Sylvie Piala?
Oui, c'est vrai qu'elle est très belle. Il y en a 9 et...
Forte concurrence, ouais. Il y a des films qui vous ont marqué dans cette sélection?
Bah oui, bien sûr. Le Campillo, évident. Le Caravaca. Faut pas que j'oublie personne, parce que dans ces cas-là, j'en vexe 7. Mais oui, bien sûr. Non, mais la liste est magnifique et c'est déjà une grande fierté d'être dedans. Voilà. Après, les gagnants, c'est autre chose. Mais c'est comme la nomination d'Iris aux Révélations. On est très heureux. Voilà. C'est toujours joyeux de ressortir sur une année de cinéma.
Barbara de Mathieu Amalric, Belle Dormant, Carré 35 de Eric Caravaca, 120 battements par minute, Les Fantômes d'Ismaël de Desplechin, évidemment Les Gardiennes de Xavier Beauvois, I Am Not Your Negro de Raoul Peck, Jeannette de Bruno Dumont, Macala d'Emmanuel Gras. Il y a effectivement beaucoup de films dans cette sélection. Nous verrons le 15, donc la semaine prochaine, qui remportera cette année le prix Louis Deluc. En attendant, vous avez produit de nombreux films depuis un peu moins de 10 ans. À Perdre la Raison, La Religieuse, L'Inconnu du Lac, Timbuktu, Le Semeur, extrait.
Ça va?
Je veux me marier avec toi.
J'ai jamais vu Mounir comme ça.
Alors si tu veux habiter à la maison, il n'y a aucun problème.
Waouh!
Petit cadeau. Ça, c'est pour le papa.
André, c'est trop.
C'est mon cadeau, c'est tout.
Il est le père adoptif de votre mari et il a acheté une maison dans laquelle il va continuer de vivre avec vous.
Est-il vraiment nécessaire que je m'enferme dans un couvent?
Votre naissance est la seule faute que j'ai commise. Aide-moi à l'expier.
Tu resteras un an de plus.
Je devais sortir au mois d'avril, nous sommes au mois de novembre.
Je sais, tes parents se sont dépouillés pour tes sœurs.
Ils veulent m'enterrer ici.
Vous enterrez. Sachez qu'aucune demoiselle n'est jamais devenue religieuse contre son gré.
Marie-Suzanne Simonin, remettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance?
Non, mon père.
Fais chier, chaque fois qu'un mec me plaît, faut qu'il soit déjà avec quelqu'un. Ça a l'air sérieux, leur histoire. L'autre, il le lâche pas.
Il n'y a pas que lui non plus.
Salut.
Bonjour.
T'as pas vu des femmes?
Si tu veux mon avis, tu t'es trompé d'endroit, là.
Nous, la femme, on l'a trouvée, c'est Sylvie Piala. Et vous ne lâchez pas vos réalisateurs non plus, Sylvie Piala. Premier pas dans le cinéma pour vous. Comme régisseuse sur le tournage de À nos amours de Maurice Piala, vous aviez 22 ans, puis scénariste ou co-scénariste avant de devenir productrice des films du Verso depuis 2005 et présidente d'honneur de l'association Côté Court qui a son festival à Pantin. Deux fois prix Daniel Toscan-Duplantier qui récompense les producteurs. Daniel Toscan-Duplantier qui d'ailleurs disait s'attacher beaucoup aux comédiens, aux acteurs des films pour avoir envie de produire, de soutenir un film. Vous, vous êtes plus attaché aux comédiens ou aux réalisateurs ?
Aux réalisateurs, hein, bien sûr, mais Daniel aussi. C'était une fantaisie de dire ça. Oui, moi, je suis contente que vous parliez de lui. Pour moi, c'est mon guide. Hein. C'est quelqu'un avec qui, d'une certaine façon, avec Maurice, on a passé 17 ans, qui nous a emmenés dans le monde du cinéma et qui nous ramenait le monde du cinéma, parce que nous, on était un peu comme des ours. Mais oui, oui, c'est... Les réalisateurs avant tout, pour moi.
Les réalisateurs avant tout. Et celui qui est avant tout cette semaine, c'est Xavier Beauvois pour Les Gardiennes en salle aujourd'hui. Il faut quand même juste qu'on signale que la bande originale du film est signée Michel Legrand. Pas moins, douce et mélancolique, traînante et entraînante comme une flûte traversière. C'est à voir donc dans Les Gardiennes au cinéma. À noter aussi la sortie aujourd'hui d'un très beau film fait avec pas grand-chose, L'usine de rien du portugais Pedro Pinho. De la campagne à l'usine, le combat des ouvriers contre la délocalisation de leur usine, une des petites pépites de la quinzaine des réalisateurs du dernier festival de Cannes, un film ovni, protéiforme, qui tend vers la comédie musicale et le cinéma engagé et qui nous parle de la crise d'aujourd'hui, un film France Culture. À suivre, midi 55, la deuxième partie de la Grande Table avec Jacques Julliard, après le journal d'Antoine Mercier. Merci beaucoup Sylvie Piala.
Merci à vous.